Chapitre 3. Fuyant la pluie soudaine qui les avait surprises devant les fossés du château, Madame Jules de Beaumont et Madame Hortin coururent par le chemin de ronde jusqu'au porche, dont la voûte surbaissée portait à sa clef le pan de la famille éteinte de Pave. Monsieur de Terremondre et le baron Wallstein ne tardèrent pas à les rejoindre. Tous quatre, ils reprenaient leur souffle. « Et l'abbé ?» demanda Madame de Beaumont. « Arthur, tu as laissé l'abbé dans la charmille ?» Le baron Wallstein répondit à sa sœur que l'abbé venait. Et bientôt l'on vit monsieur l'abbé Guitrel, humide et paisible, monter les degrés de pierre. Il avait, dans cette alerte, observé seul une parfaite dignité, gardé le calme convenable à son état et à sa corpulence, montré par anticipation une gravité vraiment épiscopale. Madame de Beaumont, les roses de sa chair avivées par la course, sa riche poitrine haletante sous le corsage clair, ramenait en avant sa jupe qui serrait ainsi ses hanches évasées et les cheveux envolés, l'œil clair, les lèvres humides, dans sa maturité d'érigone viennoise, donnait l'idée délicieuse d'une grappe de raisin pleine et dorée. Elle demanda d'une voix un peu grosse et moins suave que sa bouche « Vous êtes mouillé, monsieur l'abbé ?» L'abbé Guitrel retira son large chapeau, dont le poil poudreux était tiqueté de noir par la pluie, promena le regard de son petit œil gris sur le groupe encore un peu haletant de ceux-là que des gouttes d'eau avaient mis en fuite, et dit, non sans une douce malice, « Je suis mouillé, mais je ne suis pas essoufflé. » Et il ajouta, « Une ondée toute inoffensive, mon habit n'est pas traversé. »« Montons, » dit Madame de Beaumont. Elle était chez elle dans ce château de Montil que Bernard de Pave, grand maître de l'artillerie, avait fait construire en 1508 pour Nicolette de Vaucelles, sa quatrième femme. « La maison de Pave fleurit 900 ans, dit Perrin du Verdier au premier livre de son trésor des généalogies, et dans la dite maison prirent alliance toutes les familles souveraines d'Europe, notamment les rois d'Espagne, d'Angleterre, de Sicile et de Jérusalem, les ducs de Bretagne, d'Alençon, de Vendôme et d'autres, et semblablement les Ursins, les Colonnais et les Cornards. Et Perrin du Verdier s'étend avec complaisance sur les illustrations de cette tant inclite maison qui donna à l'Église 18 cardinaux et 2 papes, à la couronne de France 3 connétables, 6 maréchaux et une maîtresse de roi. Sur la terre de Montil avaient résidé depuis le règne de Louis XII jusqu'à la Révolution les chefs de la branche aînée de Pave, éteinte en 1795 dans la personne de Philippe VIII, prince de Pave, seigneur de Montil, Toché, Les Ponts, Rougin, La Victoire, Berlogue et autres lieux, premier gentilhomme du roi, mort à Londres où il avait émigré et où il s'était établi merlan dans une échoppe de Whitecourt Street. Cette terre qu'il avait laissée inculte de son vivant furent à l'époque du directoire vendues comme biens nationaux et adjugées en plusieurs lots à des paysans qui firent souche de bourgeois. La bande noire qui avait acquis le château contre une poignée d'assignats entreprit de le démolir en 1813. Mais interrompu après la destruction de la galerie des faunes, les travaux ne furent point repris. 2 ans, les gens du pays enlevèrent pour leur usage les plombs des toitures. En 1815, M. de Reux, ancien officier de marine du roi, agent secret du comte de Provence en Hollande, complice, dit-on, de Georges dans l'attentat de la rue Saint-Nicaise, désireux de finir sa vie dans le pays de sa naissance, acheta pour quelques centaines d'écus arrachés au prince ingrat ses murailles ruinées, où il nicha son indigence farouche, et qui pensèrent s'écrouler sur lui et sur ses 11 enfants, tant bâtards que légitimes. Après sa mort, sa fille, vieille fille, y demeura, faisant sécher des prunes dans les salles de gloire et de beauté. En 1875, un matin d'hiver, Mademoiselle de Reux, âgée de 99 ans et 3 mois, fut trouvée morte sur une paillasse éventrée et pourrie, dans la chambre semée de chiffres, de devises et d'emblèmes en l'honneur de Nicolette de Vaucelles. À cette époque, le baron Jules de Beaumont, fils de Nathan, fils de Seligman, fils de Simon, venu d'Autriche où il avait négocié les emprunts du malheureux empire, établissait en France le centre de ses opérations. Il apportait à la République le concours de son génie financier. Parmi les membres du Parlement appelés à le comprendre et à l'aimer, M. Lapratelet, qui représentait alors à la Chambre l'arrondissement de Montil, fut un des premiers et des plus sûrs. Il découvrit tout de suite qu'après l'âge des principes et les heures de lutte, le temps était venu des grandes affaires. Il apporta ses chaudes sympathies et son utile dévouement au baron, qui, de son côté, disait volontiers « Ce Lapratelet est un garçon intelligent ». Sur la vie de Lapratelet, le baron Jules acheta le château de Montil. C'était une ruine auguste et charmante qu'on pouvait soutenir et conserver. Le baron en confia la restauration à M. Quatrebarbe, élève de Viollet-le-Duc, architecte diocésain, qui enleva toutes les vieilles pierres et les remplaça par des neuves. Et dans ce bâtiment frais, le baron, qui étonnait les hommes politiques par son goût en art, installa promptement ses collections de tableaux, de meubles, d'armes, monstres de richesse. Ainsi, le château de Montil, selon l'expression de M. de Terremondre, fut conservé aux admirateurs de notre art national et transformé en un merveilleux musée par les soins et la magnificence d'un grand seigneur doublé d'un grand amateur. Montil et ses tours ornées de médaillons, son escalier de dentelle, ses salles aux boiseries délicatement sculptées, le baron n'en jouit guère et n'en goûta pas longtemps l'orgueil. Après avoir traversé l'âge d'or des affaires, il tomba, frappé d'un coup d'apoplexie, à la veille des ruines et des scandales. Il mourut en pleine richesse, laissant une veuve éclatante et rieuse et un enfant en bas âge qui lui ressemblait par le corps trapu, le front de taureau et déjà l'âme impitoyable. Madame de Beaumont avait gardé Montilou où elle se plaisait. Elle fit passer Madame Horta par l'escalier à vis dont la dentelle de pierre répétait au milieu de là et d'entre là, avec une folle profusion, le paon de Bernard de Pave lié par la patte aux luttes de Nicolette de Vaucelles. Elle-même, ramassant ses jupes d'un geste un peu brutal, qui n'était pas sans charme, s'engagea dans la montée en spirale. M. de Terremondre, président de la Société d'archéologie, jadis homme à bonne fortune, montait derrière elle et la suivait du regard dans le jeu de ses formes désirables. À 40 ans, elle avait gardé l'envie et les moyens de plaire. M. de Terremondre l'en estimait, car il était honnête homme, mais il ne tentait rien auprès d'elle, sachant qu'elle aimait profondément M. Raoul Martien, un homme superbe, violent et déconsidéré. Madame de Beaumont dit, en poussant une porte, « Entrons dans la salle d'armes, elle est chauffée au calorifère. » Et il était vrai que la salle d'armes était chauffée au calorifère et que, parmi les carreaux de faïence à grotesques dessinés par M. Quatrebarbe d'après l'ancien pavement qu'il avait arraché, les conduits de chaleur entr'ouvraient leurs bouches de cuivre clair. Madame de Beaumont prit soin de placer sur une de ses bouches M. l'abbé Guitrel et de lui demander affectueusement s'il avait au moins des chaussures imperméables et s'il ne boirait pas un verre de punch. Cette saliment se brillait sous sa voûte à nervure de plus de fer que l'armeria de Madrid. Le financier avait formé là, en 2 ou 3 coups d'argent, une collection d'armes telle que n'en eut pas Spitzer lui-même. Les 3 siècles de l'armure de plate y figuraient sous les formes en usage dans tous les pays d'Europe. Sur la cheminée monumentale, gardée par 2 Brabançons à la braconnière glorieuse, se dressait le profil d'une armure de condottière enfourchant une armure de cheval avec le chanfrein à vue, la muserolle, la barde de crinière et la barde de poitrail, et la tonnelle et le garde-queue. Du haut en bas des murailles s'étalaient d'éclatantes panoplies, casques bassinés, armées, salades, morions, cabassés, bourguignottes, chapeaux de fer, aubert, cottes d'armes, brigantines, grèves, solerets, éperons. Autour des rondaches, des pavois et des targes rayonnaient flamberges, colichemardes, pertuisanes, fauchards, guisarmes, espadons, rapières, estoques, poignards, stylets et dagues. Au pied des murs se rangeaient tout autour de la salle des fantômes, revêtus de fer poli, de fer noirci, de fer gravé, niellé, ciselé, damasquiné, les maximiliennes à cuirasses cannelées et bombées, les armures à bouillon et les armures à tonnes, le polichinelle de Henri III et l'écrevisse de Louis XIII, habits de guerre que revêtirent princes français, espagnols, italiens, allemands, anglais, chevaliers, capitaines, sergents, arbalétriers, reîtres, soudards, routiers de toutes les routes, écorcheurs et suisses, parures d'acier qui furent au camp du drap d'or, aux joutes et aux tournois de France, d'Angleterre et des Allemagnes, armures de Poitiers, de Verneuil, de Grandson, de Fornoux, de Cérisol, de Pavie, de Ravenne, de Poultava, de Culloden, généreuses ou mercenaires, courtoises ou félonnes, victorieuses ou vaincues, amies ou ennemies, toutes rassemblées là par le baron. Après dîner, Madame de Beaumont, en servant le café, n'offrit point de sucre à Monsieur l'abbé Guitrelle, qui avait coutume d'en prendre, et elle l'offrit du sucre au baron de Valstein, qui était diabétique et suivait un régime sévère. Elle agit de la sorte non point avec malice, mais parce que son âme était distraite par des pensées qui occupaient tout son cœur. Son chagrin, qu'elle ne savait point cacher, et tant sans ruse, lui venait d'une dépêche envoyée de Paris et dont le texte présentait un double sens, l'un littéral et méprisable, clair pour tout le monde, mentionnant un retard dans quelque envoi de bouture, l'autre spirituel et véritable, intelligible pour elle seule, pour elle douloureux, lui faisant connaître que l'ami ne viendrait pas à Montil et qu'il se débattait à Paris dans de terribles embarras. C'était le cas ordinaire de M. Raoul Marcien d'avoir grand besoin d'argent. Depuis une quinzaine d'années, depuis sa majorité, il se maintenait dans le monde à coups de génie et d'audace. Mais cette année, les difficultés de sa position, sans cesse accrues, devenaient effroyables. Madame de Beaumont en éprouvait infiniment de peine et d'inquiétude, car elle l'aimait Raoul, elle l'aimait tendrement, de toute son âme et de toute sa chair. « Et vous, monsieur de Terremondre, deux morceaux ?» Elle le chérissait, son Raoul, son Rara, avec toute la douceur de son âme sereine. Elle l'aurait voulu tendre et fidèle, innocent, rêveur. Il n'était pas tel qu'elle l'aurait voulu, et elle en souffrait. Et, craignant de le perdre, elle faisait brûler des cierges dans la chapelle de Saint-Antoine. Monsieur de Terremondre, qui était connaisseur, regarda les tableaux. C'était des peintures de l'école moderne, des Daubigny, des Théodore Rousseau, des Jules Dupré, des Chaintreuil, des Diaz, des Corot. Étant mélancolique, orée de bois profonds, prairies humides, rues de villages, clairières qui inondent l'or du soleil couchant, saules trempées dans les vapeurs blanches du matin, toiles argentées ou fauves, ou vertes ou bleues ou grises, qui, dans leur massif cadre d'or, sur une tenture de damas rouge, n'accompagnait pas très harmonieusement peut-être la monumentale cheminée de la Renaissance, où les amours des nymphes et les métamorphoses des dieux étaient sculptées dans l'ardoise. Et cette toile faisait un peu tort vraiment au merveilleux plafond ancien, dont les caissons peints répétaient, avec une diversité infinie, le pan de Bernard de Pave lié par la patte aux luttes de Nicolette de Vaucelles. « Un beau millet, » dit M. de Terremondre, devant une gardeuse d'oie se découpant, terrible de solennité rustique, sur un ciel d'or pâle. « C'est un joli tableau, » répondit le baron Valstein. « J'ai le pareil à Vienne, mais le mien représente un berger. Je ne sais pas ce que mon beau-frère a payé celui-là. » Il se promenait, sa tasse à la main, par la galerie. Ce Jules Dupré a coûté 50 000 francs à mon beau-frère, ce Théodore Rousseau 60 000, ce Corot 150 000. Je ne connais les idées du baron en peinture, dit M. de Terremondre, qui suivait Valstein le long des murs. Un jour, que je descendais l'escalier de l'hôtel des ventes, un petit tableau sous le bras, le baron me tira par la manche, selon son habitude, et me dit « Qu'est-ce que vous emportez là ?» Je lui répondis avec l'orgueil d'un amateur heureux, un Ruysdael, monsieur de Beaumont, un Ruysdael authentique. Il a été gravé, et précisément j'ai la gravure dans mes portefeuilles. Et combien l'avez-vous payé, ce Ruysdael ? C'était dans une salle du rez-de-chaussée. L'expert ne savait pas ce qu'il vendait. 30 francs. Tant pis, tant pis. Et voyant ma surprise, il me saisit plus vivement par la manche et me dit « Mon cher monsieur de Terremondre, il fallait le payer 10 000. Si vous l'avez payé 10 000, il en vaudrait 30 dans vos mains. Tandis que ce petit tableau qui vous coûte 30 francs, quel prix pourra-t-il bien atteindre à votre vente? 25 louis tout au plus. Il faut être raisonnable. Une marchandise ne peut pas monter d'un saut de 30 francs à 30 000 francs. » « Ah !» conclut monsieur de Terremondre, « il était fort, le baron. » « Il était fort, » répondit Wallenstein, « et puis il aimait à se moquer. » Et les deux causeurs, leur tasse à la main, levant la tête, le virent, ce baron qui avait été fort dans la vie. Il était là, dressant au milieu des paysages coûteux, dans un cadre étincelant, sa hure de sanglier narquois, peintre par Delaunay. Cependant, madame de Maumont et monsieur l'abbé Guitrel, assis l'un en face de l'autre devant le feu de la vaste cheminée, échangeaient des propos sur le temps et songeaient. Madame de Beaumont songeait que la vie eût été douce si Rara l'avait voulu. Elle l'aimait avec tant d'innocence et de simplicité. Tous les moralistes anciens et modernes, tous les pères de l'Église, les docteurs et les théologiens, monsieur l'abbé Guitrel et monseigneur Charlot, le pape et ses conciles, l'archange à la trompette éclatante et le Christ venu dans sa gloire pour juger les vivants et les morts n'auraient pas réussi, tous ensemble, à lui faire croire qu'il était mal d'aimer Rara. Elle songeait qu'elle ne le verrait pas à Montil et que peut-être en ce moment même il la trompait. Elle savait qu'il fréquentait les filles presque autant que les huissiers et elle l'avait vu aux courses avec de vieilles cocottes auxquelles il lançait des regards empoisonnés tout en leur passant une lorgnette ou en leur mettant leur manteau. Car le pauvre ami ne pouvait se débarrasser d'une foule de personnes gênantes qui le tenaient pour des raisons auxquelles on ne comprenait rien quand il les expliquait. Elle était malheureuse. Elle soupira. Monsieur l'abbé Guitrel songeait à l'évêché de Tourcoing. Son rival, monsieur l'abbé Lantaigne, était détruit. Il s'abîmait dans la ruine du séminaire sous le papier timbré du boucher La Folie. Mais les compétiteurs étaient nombreux à la succession de monseigneur Duclous. Un premier vicaire d'une des paroisses de Paris et un curé de Lyon semblaient agréables au ministère. L'annonciature gardait son silence accoutumé. Monsieur l'abbé Guitrel soupira. En entendant ce soupir, madame de Beaumont, qui était très bonne, se reprocha ses pensées égoïstes. Elle s'efforça de s'intéresser aux affaires de monsieur l'abbé Guitrel, et elle lui demanda, très affectueusement, s'il ne serait pas bientôt évêque. « C'est à Tourcoing, lui dit-elle, que vous vous présentez. Est-ce que vous ne vous déplairez pas dans cette petite ville ?» Monsieur l'abbé Guitrel affirma que le gouvernement des fidèles occuperait assez leur pasteur, que le diocèse de Tourcoing, d'ailleurs, était l'un des plus anciens et l'un des plus vastes de la Gaule septentrionale. C'est, ajouta-t-il, le siège du bienheureux Loup, apôtre des Flandres. Ah, « Vraiment ? » dit madame de Beaumont. « Il faut se garder, » reprit monsieur l'abbé Guitrel, « de confondre Saint-Loup, apôtre des Flandres, avec Saint-Loup, évêque de Lyon, Saint-Loup houleux, évêque de Sens, et Saint-Loup, évêque de Troyes. Celui-ci avait épousé depuis 7 ans la sœur de l'évêque d'Arles, nommée Pimentola, lorsqu'il se sépara d'elle pour se livrer, dans la solitude de l'airain, aux travaux d'une dévotion ascétique. » Et madame de Beaumont songeait, « Il a encore empoigné une forte culotte au bac. D'un côté, c'est bon pour lui, parce que, dans un temps, il gagnait trop au cercle, et on ne voulait plus ponter sur sa main. Mais, d'un autre côté, c'est très désagréable. Il faudra payer. » Et madame de Beaumont était vivement contrariée à l'idée de payer les dettes de Rara. D'abord, elle n'était jamais contente de payer. Et puis elle n'aimait pas du tout avancer de l'argent à Rara, tant par principe que dans l'inquiétude où elle se trouvait ensuite de n'être pas aimée pour elle-même. Et elle se disait qu'il faudrait pourtant payer, quand elle verrait son Rara, sombre et terrible, appliquer une serviette mouillée sur son crâne fumant, qui commençait à reluire entre les cheveux devenus rares, et quand elle entendrait le pauvre ami s'écrier, au milieu des blasphèmes et des imprécations horribles, qu'il n'y avait plus qu'à se faire sauter le caisson. Ce qu'il était homme d'honneur, Rara. Il en vivait d'honneur. Témoin, arbitre, c'était sa profession depuis qu'il avait quitté l'armée. Dans un certain monde, très chic, il n'y avait pas de duel sans lui, et elle se disait qu'il faudrait payer encore. si du moins elle l'avait bien à elle, tendre, assidu, mais agité, furieux, hagard, il semblait toujours traverser une bataille. « Ce saint dont il s'agit, madame la baronne, dit l'abbé Guitrel, le bienheureux loup ou loupous, évangélisa les Flandres. Les travaux de son apostolat étaient souvent pénibles. On trouve dans sa biographie un trait qui vous touchera par sa grâce naïve. Un jour qu'il traversait les campagnes couvertes de glace, le bienheureux s'arrêta pour se chauffer dans la maison d'un sénateur. » Celui-ci, qui traitait alors ses compagnons de plaisir, tint avec eux devant l'apôtre des propos déshonnêtes. Loup tenta de réprimer ses discours. « Mes fils, dit-il au sénateur et à ses hôtes, ne savez-vous point qu'au jour du jugement, vous aurez à répondre de toute parole vaine ?» Mais eux, méprisant les exhortations du saint homme, redoublèrent en leurs propos d'indécence et d'impiété. Pour lors, secouant la poussière de ses souliers, le bienheureux leur dit « J'ai voulu, à cause du froid, chauffer un peu à votre feu mon corps fatigué, mais vos coupables discours me forcent de m'éloigner tout glacé encore. » Madame de Beaumont songeait avec tristesse que Rara, depuis quelque temps, ne cessait plus de grincer des dents, de rouler des yeux furieux en menaçant de mort les Juifs. Il avait toujours été antisémite, Rara, elle aussi d'ailleurs, mais elle aimait mieux qu'on ne posât pas la question, et elle estimait que Rara, puisqu'il aimait une dame catholique, mais d'origine juive, avait tort de dire qu'il voudrait crever le ventre à tous les youtres. Cela encore l'attristait. Elle aurait voulu plus de douceur et de sympathie, de plus calmes desseins et des désirs plus gracieux. Pour elle, elle mêlait à ses pensées d'amour des rêves innocents de pâtisserie et de poésie. « L'apostolat du bienheureux loup, dit M. l'abbé Guitrel, porta ses fruits. Les habitants de Tourcoing, baptisés par lui, le nommèrent par acclamation leur évêque. Sa fin fut accompagnée de circonstances qui frapperont vivement votre esprit, j'en suis certain, madame la baronne. » Un jour du mois de décembre de l'an 397, Saint-Loup, plein d'œuvres et de jours, se dirigea vers un arbre entouré de ronces, au pied duquel il avait coutume de faire ses prières. Là, fixant deux bâtons dans la terre, il marqua une place de la longueur de son corps et dit à ses disciples qu'il avait invité à le suivre, « Lorsque, par la volonté de Dieu, je sortirai de l'exil de ce monde, c'est là qu'il faudra m'ensevelir. » Saint-Loup mourut le dimanche qui suivit, le jour où il avait marqué lui-même le lit de son repos. Il fut fait selon sa volonté, et Blandus vint inhumer le corps du bienheureux auquel il fut appelé à succéder sur le siège épiscopal de Tourcoing. Elle était triste et pleine d'indulgence. Les fureurs antisémites de Rara, elle en devinait la raison et elle les excusait. Dans ces derniers temps, Rara, pour se refaire une bonne renommée et pour se maintenir en posture d'homme d'honneur, avait pris en main au cercle la cause de l'armée à laquelle il avait appartenu comme officier de cavalerie. Il avait fortement resserré les liens qui l'unissaient à la grande famille. Il avait même giflé un juif qui demandait dans un café l'annuaire militaire. Madame de Beaumont l'aimait et l'admirait, mais elle n'était pas heureuse. Elle leva la tête, ouvrit tout grand ses yeux, jolis comme des fleurs, et dit « Le siège du bienheureux loup, apôtre de... Ah, continuez, monsieur l'abbé, vous m'intéressez beaucoup. » Madame de Beaumont était destinée à chercher les douceurs d'un paisible amour dans des âmes peu propres à les lui assurer. Cette sentimentale Élisabeth avait toujours donné son cœur à de terribles aventuriers. Du vivant du baron Jules, elle avait aimé tendrement le fils d'un obscur sénateur, le jeune X, fameux pour avoir à lui seul détourné dans un ministère les fonds secrets d'une année entière. Elle avait ensuite accordé toute sa confiance à un homme bien séduisant, qui brillait au premier rang de la presse gouvernementale et qui disparut soudain dans une immense catastrophe financière. Cela, du moins, elle l'étonnait, pour ainsi dire, du baron lui-même. Une femme n'est pas blâmable d'aimer dans son monde, mais le nouveau, le dernier, le plus cher, l'unique, Raoul Marcien, elle ne l'avait pas trouvé dans l'entourage du baron. Il n'appartenait pas au monde des affaires. Elle l'avait rencontré dans la meilleure société française, en province, dans un milieu presque monarchiste et presque religieux. Lui-même, il était presque gentilhomme. Elle l'avait bien cru cette fois, contenter son désir de tendresse et d'intimité délicate, posséder enfin l'ami chevaleresque aux sentiments nobles et doux qu'elle rêvait. Et voilà qu'il était comme les autres, glacé, brûlé d'épouvante et de fureur, déchiré d'angoisse, agité par les étonnantes merveilles d'une vie d'escroquerie et de chantage. Mais combien plus pittoresque et plus amusant qu'un autre! Témoin dans cette grave et délicate affaire, pendant qu'on l'exécute à son cercle, le même matin, nommé chevalier de la Légion d'honneur et appelé dans le cabinet du juge d'instruction pour répondre d'une plainte en abus de confiance. Et toujours la poitrine bombée, la moustache flambante, défendant son honneur à la pointe de l'épée. Mais depuis quelques mois, il perdait son sang-froid, parlait trop haut et s'agitait trop, se compromettait par désir de vengeance, car il était trahi, disait-il. Élisabeth voyait avec inquiétude les colères de Rara s'allumer chaque jour plus vives. Quand elle allait chez lui le matin, elle le trouvait en manches de chemise, plongée jusqu'au cou dans sa vieille malle d'officier, toute pleine de papier timbré, et là-dedans, la tête de cramoisie, jurant, sacrant, hurlant, gredin, canaille, fripouille, misérable, annonçant qu'on entendrait parler de lui et qu'il y aurait du nouveau. Elle attrapait un baiser au milieu des imprécations, et il la congédiait avec la perpétuelle annonce qu'il se ferait sauter le caisson. Non, ce n'était pas ainsi qu'Élisabeth comprenait l'amour. Vous disiez donc, monsieur l'abbé, que le bienheureux loup... Mais l'abbé Guitrel, la tête inclinée sur l'épaule et les mains jointes sur la poitrine, dormait dans son fauteuil. Et madame de Beaumont, douce envers elle-même comme envers autrui, s'endormit dans sa bergère en songeant que Rara verrait peut-être la fin de ses tracas, qu'elle n'aurait peut-être que peu d'argent à lui donner pour cela, et qu'enfin elle serait aimée par le plus beau des hommes. « Cher ami, cher ami !» s'écria de sa voix de cor de chasse, avec un accent à terrifier les Turcs, l'Européenne madame Horta. « Cher ami, est-ce que nous ne verrons pas ce soir monsieur Ernest ?» Elle parlait debout, les traits grands, avec l'air d'une vierge guerrière, oubliée, 20 ans, dans un praticable au théâtre de Bayreuth, terrible, sainte et revêtue de jais et d'acier, de lueurs, d'éclairs, de bruit. Au fond, très bonne dame et mère de beaucoup d'enfants. Réveillée en sursaut par ces cuivres enchantés qui sonnaient dans la gorge de l'excellente madame Horta, la baronne répondit que son fils, ayant obtenu un congé de convalescence, devait venir ce soir même à Montil. Les chevaux étaient allés le chercher à la gare. Monsieur l'abbé Guitrel, son sommeil traversé par cette fanfare nocturne, rajusta ses lunettes chancelantes et, passant la langue sur ses lèvres afin de leur donner l'onction nécessaire, murmura avec une céleste douceur. « Oui, loup, loup !»« Ainsi, dit madame de Beaumont, vous porterez la mitre, vous tiendrez la crosse et vous aurez au doigt un gros anneau. »« Je ne sais pas encore, madame, dit monsieur Guitrel. »« Oh, si, si, vous serez nommée. » Elle se pencha un peu vers l'abbé et demanda à voix basse. « Monsieur l'abbé, est-ce que l'anneau des évêques doit avoir une forme particulière ?» Pas précisément, madame, répondit Guitrel. L'évêque porte l'anneau comme symbole de son mariage spirituel avec l'Église. Il convient donc que cet anneau exprime en quelque sorte, par son aspect même, des idées de pureté et d'austérité. Ah, dit madame de Beaumont, et la pierre? Au Moyen-Âge, madame la baronne, le chaton était parfois d'or, comme l'anneau, ou bien de pierres précieuses. L'améthyste est une pierre très convenable, ce semble, à orner l'anneau pastoral. Aussi la nomme-t-on pierre d'évêque. Elle brille d'un éclat modéré. C'est une des 12 pierres qui composaient le pectoral du grand prêtre des Juifs. Elle exprime, dans la symbolique chrétienne, la modestie et l'humilité. Narbonne, évêque de Rennes au XIe siècle, en fait l'emblème des cœurs qui se crucifient sur la croix de Jésus-Christ. Vraiment, dit madame de Beaumont. Et elle résolut d'offrir à monsieur Guitrel, quand il serait nommé évêque, un anneau pastoral avec une grande améthyste. Mais les cuivres de madame Horta éclatèrent de nouveau.
« cher ami, est-ce que nous ne verrons pas monsieur Raoul Martien? Est-ce que nous ne le verrons pas, ce cher monsieur ?» Il fallait l'admirer, la dame européenne, connaissant toutes les sociétés du globe, de ne pas trop les embrouiller dans sa tête. Son cerveau contenait l'annuaire des salons de toutes les capitales, et elle ne manquait pas d'un certain sens mondain. Sa bienveillance était universelle. Si elle avait nommé M. Raoul Martien, c'était en toute innocence. Elle était l'innocence même, elle ignorait le mal. Bonne mère et bonne épouse, ayant pour foyer un sleeping-car, un wagon-lit sur des voies ferrées, elle était une femme d'intérieur. Sous son corsage, où le jais et l'acier jetaient des éclairs dans un bruit de grêle, elle portait un corset de grosse toile grise. Ces femmes de chambre ne doutaient point de sa vertu. Cher ami, vous savez, M. Raoul Martien, il s'est battu avec M. Isidore Meyer. Et dans son langage d'International Office, d'agence pour voyageurs, elle conta l'affaire que Mme de Beaumont connaissait bien. Elle dit comment M. Isidore Meyer, un Israélite assez connu et très estimé dans le monde financier, entra un matin dans un café du boulevard des Capucines, s'assit devant une table et demanda l'annuaire militaire. Ayant un fils dans l'armée, il voulait savoir les noms des officiers appartenant au régiment de son fils. Il étendait la main pour prendre l'annuaire apporté par un garçon, quand M. Raoul Martien s'avança vers lui et lui dit « Monsieur, je vous défends de toucher au livre d'or de l'armée française. Pourquoi » « Pourquoi ?» demanda M. Isidore Meyer. « Parce que vous êtes un coreligionnaire du traître. » M. Isidore Meyer haussa les épaules et M. Raoul Martien lui donna un soufflet. Sur quoi une rencontre fut reconnue nécessaire et deux balles furent échangées sans résultat. « cher ami, comprenez-vous? Moi, je ne comprends pas. » Madame de Beaumont ne répondit point et son silence fut prolongé par le silence de M. de Terremondre et du baron Wallstein. « Je crois, dit Madame de Beaumont, en tendant l'oreille à un bruit sourd de roues et de chevaux, je crois que c'est Ernest qui arrive. » Un domestique, ayant apporté les journaux, M. de Terremondre déploya une des feuilles et y jeta un regard très distrait. « Encore l'affaire, murmura-t-il, encore des professeurs qui protestent. Quelle rage ont-ils de s'occuper de ce qui ne les regarde pas? Il est bien juste pourtant que les militaires règnent leur contre entre eux, comme c'est l'habitude. Et il me semble que quand cet officier... « Assurément, dit M. l'abbé Guitrel, quand cet officier se sont prononcés, il est téméraire, je dirais même inconvenant, d'émettre un doute sur leur décision. C'est une indécence, évidemment, une incongruité. »« Vous parlez de l'affaire ? » demanda Madame de Beaumont. « Eh bien, je puis vous affirmer que Dreyfus est coupable. Je le tiens d'une personne très bien informée. » Elle dit et rougit, car cette personne était Raoul. Ernest entra, maussade et sournois, dans le salon. « Bonjour, maman. Bonjour, monsieur l'abbé. » Il salua les autres à peine et il alla s'enfoncer dans les coussins sous le portrait de son père. Il lui ressemblait beaucoup. C'était le baron, mais amoindri, diminué, affadi, le sanglier devenu petit, pâle et mou. Pourtant, la ressemblance était frappante. M. de Terremondre en fit la remarque. « C'est étonnant, M. de Beaumont, comme vous ressemblez au portrait du baron. » Ernest leva les yeux et regarda du coin de l'œil la toile de Launay. « Ah, papa, très fort, papa. Moi aussi, très fort, mais fichu. Comment va, monsieur l'abbé? Nous sommes bons amis, n'est-ce pas, tous les deux? Je vous demanderai tout à l'heure un petit bout de conversation. » Puis, se tournant vers M. de Terremondre, qui tenait un journal dans ses mains, « Qu'est-ce qu'on dit ici? Quant à nous, vous pensez bien qu'au corps, nous n'avons pas les moyens de nous payer une opinion. C'est un luxe de bourgeois que d'avoir une idée sur quelque chose, même une idée bête. Et puis, les affaires qui regardent les grosses légumes, en quoi peuvent-elles intéresser les hommes, bon Dieu ?» Il ricana. Il s'amusait terriblement au quartier. Et très fin, sans en avoir l'air, silencieux, prudent, sournois, il jouissait de la prodigieuse puissance démoralisatrice qu'il portait en lui. Corrupteur encore malgré lui, quand il se plaisait à liarder et à carotter, il avait ri d'un rire énorme et muet le jour où il s'était fait offrir une pipe en écume par un camarade pauvre et vaniteux. Sa joie était de mépriser et de haïr ses supérieurs, en voyant les uns pleins de convoitise lui vendre leur âme, les autres timorés lui refuser, par peur de se compromettre, non pas une faveur, mais la jouissance de quelque droit qui ne fut jamais dénié à un fils de paysan. Le jeune Ernest de Beaumont vint, sournois et câlin, s'asseoir tout à côté de M. l'abbé Guitrel. « Monsieur l'abbé, vous qui voyez souvent les blessés, vous êtes dans leur intimité, pas vrai ?»«
Ne croyez point, mon enfant, répondit M. l'abbé Guitrel, que je sois dans l'intimité de M. le duc de Bressé. Cela n'est pas. Du moins, ai-je souvent l'occasion de le voir au milieu de sa famille. Je vais, à certains jours de fête, dire la messe dans la chapelle de Notre-Dame des Bellefeuilles, située, comme vous le savez, dans les bois de Bressé. C'est pour moi, je le disais tantôt encore à madame votre mère, une source de consolation et de grâce. » Après la messe, je déjeune soit au presbytère, chez M. le curé Travies, soit au château, où l'on me fait, je dois le dire, le meilleur accueil. Oh, le duc est d'une simplicité parfaite dans ses manières. Les dames de Bressé sont affables et douces. Elles font beaucoup de bien dans le pays. Elles en feraient plus encore si les préventions injustifiées, les haines aveugles, le mauvais vouloir des populations... Savez-vous, monsieur l'abbé, quel effet a produit l'ustensile que maman a envoyé à la duchesse pour la chapelle de Notre-Dame des Bellefeuilles? Quel ustensile, voulez-vous dire? Parlez-vous, mon enfant, du ciboire en vermeil? Non, je puis vous assurer que monsieur et madame de Bressé ont été touchés de cet hommage, fait si simplement par madame votre mère à la Vierge miraculeuse. « Alors, c'est une bonne idée, dites, monsieur l'abbé. Eh bien, c'est moi qui l'ai eue. Maman, vous savez, elle n'a pas beaucoup d'idées. Oh, je ne lui fais pas un reproche, mais parlons sérieusement. Vous m'aimez bien, n'est-ce pas, monsieur l'abbé ?» Monsieur l'abbé Guitrel prit entre ses deux mains la main du jeune Beaumont. « Mon enfant, ne doutez pas de ma tendresse pour vous, elle est paternelle. » Je dirais même qu'elle est maternelle pour mieux exprimer ce qu'elle contient à la fois de force et de douceur. Je vous ai suivi avec attendrissement, mon cher Ernest, et depuis le jour déjà lointain où vous avez fait une bonne première communion, jusqu'à ce moment où vous accomplissez votre noble devoir de soldat dans cette belle armée française qui devient de jour en jour, je me plais à le constater, plus chrétienne et plus religieuse. Et j'ai la conviction, mon bien cher enfant, qu'au milieu des distractions, des égarements même de votre âge, vous avez gardé la foi. Vos actes en témoignent. Je sais que vous avez toujours tenu à honneur de contribuer à nos bonnes œuvres. Vous êtes mon enfant de prédilection. Eh bien, monsieur l'abbé, rendez service à votre enfant. Dites au duc de Bressé de me donner le bouton. Le bouton ? Le bouton de l'équipage.
Le bouton de l'équipage? Mais, mon enfant, c'est d'une affaire de vénerie que vous me parlez là. Et je ne suis pas, comme monsieur le curé Travies, un grand chasseur devant l'Éternel. J'ai pratiqué saint Thomas beaucoup plus que saint Hubert. Le bouton de l'équipage. N'est-ce point une expression figurée, une métaphore pour exprimer l'idée d'une chasse en commun? Enfin, mon enfant, vous désirez recevoir une invitation aux chasses de M. de Bressé. Le jeune Beaumont sauta. Ne gaffons pas, monsieur l'abbé, ce n'est pas ça. Oh, mais ce n'est pas ça du tout, une invitation. Je suis bien sûr de recevoir une invitation aux chasses de Bressé en échange de l'ustensile. Du ciboire, ciborium. Je pense aussi, mon cher enfant, que monsieur le duc et madame la duchesse se feront une joie de vous envoyer une invitation dès qu'ils croiront, en le faisant, être agréable à vous et à madame votre mère. Je vous crois, du moment qu'ils ont gardé l'argenterie, mais vous pouvez leur dire que je ne serai pas ravi de leur invitation. Moisir dans un carrefour d'où l'on ne voit rien, recevoir toute la boue de l'équipage dans la gueule et se faire attraper par un piqueur parce qu'on foule la voie, c'est une variété de distractions dont je ne suis pas avide. Les Bressés peuvent garder leur invitation.
Mais en ce cas, mon enfant, je ne comprends pas bien votre pensée. Elle est pourtant limpide, ma pensée, monsieur l'abbé. Je ne veux pas que les Bressés se fichent de moi, voilà ma pensée.
Expliquez-vous, je vous prie.
Eh bien, monsieur l'abbé, imaginez qu'on vous mette dans le carrefour du roi, avec le médecin du village, la femme du capitaine de gendarmerie et le premier clerc de monsieur Hirvoy. Non, ce n'est pas admissible. Tandis que si j'ai le bouton, je chasse avec l'équipage.
Et l'on verra, quoique j'ai l'air un peu vanné des fois, si je ne suis pas un monsieur qui pique dur.
Eh bien, le bouton, vous pouvez me le faire avoir, monsieur l'abbé. Les Bressés ne vous le refuseront pas. Vous n'avez qu'à le demander au nom de Notre-Dame des Bellefeuilles.
Mon enfant, ne mettez point, je vous prie, Notre-Dame des Bellefeuilles dans cette affaire qui n'est pas de celle qui l'intéresse. La Vierge miraculeuse de Bressé est assez occupée d'accorder des grâces aux veuves, aux orphelins et à nos chers petits soldats de Madagascar. Mais y a-t-il donc, mon bon Ernest, un si grand avantage à posséder ce bouton? Est-ce donc un si précieux talisman? À sa possession sont attachés sans doute de singuliers privilèges. Faites-les-moi connaître. Je ne méprise pas, tant s'en faut, l'art très antique et très noble de la chasse. J'appartiens au clergé d'un diocèse éminemment cynégétique. Je demande à m'instruire.
Vous vous amusez, monsieur l'abbé, vous vous payez ma tête. Vous savez bien que le bouton, c'est le droit de porter la tenue aux couleurs de l'équipage. Je vais vous parler à cœur ouvert, je suis franc, j'en ai les moyens. Je veux le bouton de Bressé parce que c'est chic de l'avoir et que j'aime le chic. Je le veux par snobisme, je suis snob, par vanité, je suis vaniteux. Je le veux parce que je serai flatté de dîner à la Saint-Hubert chez les Bressé. Le bouton de Bressé, je crois qu'il m'irait bien, j'en ai très envie, je ne le cache pas, je n'ai pas de fausse honte, ni de vraie non plus d'ailleurs. Écoutez-moi, monsieur l'abbé, j'ai une chose très importante à vous dire. Il faut que vous sachiez qu'en demandant le bouton au duc de Bressé, vous ne ferez que réclamer ce qui m'est dû, parfaitement, ce qui m'est dû. J'ai des propriétés dans le pays. Oh, je ne tue pas les cerfs, je laisse passer sur moi, je laisse attaquer sur moi. Ce sont des procédés qui méritent des égards et de la reconnaissance. Monsieur de Bressé doit le bouton à ce bon petit voisin d'Ernest.
L'abbé ne répondit rien. Visiblement, il résistait et se refusait. Le jeune Beaumont reprit.
Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur l'abbé, que dans le cas où les Bressés feraient payer le bouton, ce n'est pas le prix qui m'arrêterait.
Monsieur l'abbé Guitrel fit un geste de protestation.
Écartez cette hypothèse, mon enfant, elle ne cadre pas avec le caractère du duc de Bressé.
Possible, monsieur l'abbé, bouton gratuit, bouton payant, ça dépend des moyens et des idées. Il y a des équipages qui coûtent à leurs propriétaires 80 000 francs par an. Il y en a qui rapportent au leur 30 000 livres de rente. Ce que je dis, ce n'est pas pour blâmer ceux qui font payer le bouton. Personnellement, je serais plutôt disposé à le faire. Je trouve que c'est juste. Et puis, il y a des régions où les chasses sont tellement coûteuses que le propriétaire, même s'il est riche, n'en peut faire seul les frais. Figurez-vous, monsieur l'abbé, que vous avez une chasse dans la banlieue de Paris. Vous voyez-vous faisant face à toutes les dépenses et payant de votre bourse les indemnités ruineuses aux paysans. Mais je crois comme vous qu'il n'y a pas de bouton payant à Bressé. Le duc n'a pas une tête à se faire un revenu avec son équipage. Eh bien, vous m'aurez le bouton gratis, monsieur l'abbé. C'est tout bénéfice.
Avant de répondre, l'abbé Guitrel tourna 7 fois sa langue dans sa bouche. Et ce signe de sagesse ne laissa point d'inquiéter le jeune Beaumont. Enfin, mon cher enfant, je l'ai dit et je veux vous le redire encore, je vous aime tendrement. Je voudrais vous être utile ou seulement agréable. Je saisirai avec empressement toutes les occasions qui se présenteraient de vous rendre service. Mais vraiment, je n'ai pas qualité pour solliciter en votre faveur cette distinction mondaine que vous appelez le bouton. Songez que si monsieur le duc de Bressé, après m'avoir entendu exposer votre requête, faisait quelque résistance, soulevait quelque difficulté, je demeurerai devant lui, sans force et sans armes. Quel moyen un pauvre professeur d'éloquence au grand séminaire aurait-il de vaincre les résistances, de lever les difficultés, d'emporter l'adhésion, pour ainsi dire, de vive force? Je n'ai rien en moi qui parle et s'impose aux grands de ce monde. Je ne puis, je ne dois, même dans une occasion futile comme celle-ci, prendre une cause dont je ne saurais assurer le succès. » Le jeune Bonbon regarda M. l'abbé Guitrel avec une surprise mêlée d'admiration et lui dit « Je comprends, M. l'abbé, ce n'est pas possible maintenant, mais quand vous serez évêque, vous enlèverez le bouton comme une bague aux chevaux de bois, sûr. »
Il est probable, répondit gravement M. Guitrel, que si un évêque lui demandait pour vous ce bouton de chasse, M. de Bressé ne lui opposerait point un refus.